Salut Laurence!
Hello, hello, hello!
Et rebonjour Andréane Garneau!
Rebonjour à vous deux!
Yes! Notre préféré spécialiste des oiseaux, comportement aviaire.
Content d'être avec vous aujourd'hui.
Les techniciens, on aime tous les animaux, donc il fallait quand même s'intéresser aux oiseaux, puis encore pour, pas juste un épisode.
Puis, on aime tous les animaux, parce que, surtout en comportement, mais aussi en santé, il y a beaucoup à apprendre en regardant ce qui se fait dans d'autres espèces que les chats et les chiens. Puis, je trouve que les perroquets, entre autres, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en entraînement avec eux, mais aussi dans les comportements sociaux. Parce que ce sont des animaux qui, contrairement aux chats et aux chiens, sont solidement sociaux.
Intensément.
Ils vivent comme constamment en groupe tout le temps. Puis justement, ils parlent entre eux. Justement, ils communiquent oralement, alors qu'entre les chiens et les chats, pas de temps. Là, ça va pas se japper entre eux, les chiens, à part pour se dire genre « Va-t'en, va-t'en, non, toi, va-t'en, ouais, ouais, ouais. »
Oui, c'est vrai, c'est intéressant, oui. Ça peut vous apporter plein de choses, le monde des oiseaux, clairement. Oui.
Puis là, je pense qu'on s'était laissé dans le dernier épisode, quand tu avais présenté ton beau métier. Comment on voulait, mettons, accueillir un oiseau. Je pense que c'est de ça dont on voulait peut-être t'entendre parler. Comment tu choisis un oiseau? Pour les gens là, qui se disent, Andréane, moi j'aimerais savoir un oiseau. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour bien les préparer?
Oui, parce qu'on se pose les questions, je pense, pour les chiens, souvent.
Oui.
Mais peut-être que c'est bien de se le poser pour toutes les espèces. Donc, c'est quoi la meilleure façon de faire?
Oui, puis en plus, avec les oiseaux, tu sais, comme on avait parlé dans l'autre épisode, il y a tellement d'espèces que là, on se retrouve autant avec les chiens, c'est plein de races, puis on est comme, là, lequel je choisis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de choix. Puis on le sait, c'est comme stressant d'avoir autant de choix. Fait qu'il y a comme à peu près 300 espèces de perroquets, mais il n'y a pas 300 espèces disponibles comme ça facilement sous la main, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Heureusement qu'on se le dise.
Heureusement.
Ça veut dire bonne affaire qu'on n'ait pas accès au droit
temps. Ça serait intense. Puis il y a des... Tu sais, avec les oiseaux, c'est sûr qu'il y a tout le temps la grosseur, il y a beaucoup de diversité là-dedans, fait qu'il y a plus petit, plus gros, fait qu'il faut avoir plus d'espace, plus il est gros, hein. Ça c'est une fatalité, je pense que j'apprends à la personne. Puis il y a le budget aussi qu'on a, parce qu'il y a des espèces qui sont plus rares, plus difficiles à reproduire en captivité, fait que beaucoup plus dispendieuses. T'sais, il y a certaines espèces d'oiseaux, ça peut être un 15 000 et plus. Il faut quand même considérer ça, mais avant de commencer tout ça, je pense que je vais choquer le monde entier en vous disant, mettons que vous dites, hey, je pense que j'aimerais ça adopter un perroquet. Ben, la première chose, peut-être que non, finalement.
Peut-être que non.
Mais pourquoi tu dis ça?
Mais pourquoi je dis ça? Ben, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir, puis que c'est, des fois, on peut le faire un peu sur un coup de tête. Hein. C'est vraiment facile de vite adopter un perroquet parce qu'il y a vraiment des oiseaux en animalerie, dans les boutiques, des éleveurs. On peut trouver sur, j'allais dire les packs, mais là, c'est vraiment...
JJ.
Marketplace, mettons, ou bon, disons que c'est comme un peu facile. On peut se dire, bon, en une semaine, avoir trouvé l'oiseau. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit mûri vraiment sur du long terme. Puis je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est pas juste lancer ça dans l'univers. Mais c'est parce qu'ils sont très, je dirais, différents des espèces qu'on est habitué d'inclure dans nos maisons. Fait qu'il va falloir être prêt, être adaptable, faire de nos recherches, mais aussi, tu sais, comme de se mettre dans l'inconnu, puis de se dire, j'ai beaucoup à apprendre, puis d'apprendre, puis de se dire, est-ce que vous avez, par exemple, un vétérinaire aviaire pour vos oiseaux? Est-ce que vous vivez à Saint-Clinclin de Memeul, au bout du monde, puis vous n'avez pas de véhicule? Fait que s'il arrivait de quoi, ça serait impossible pour vous de soigner l'oiseau.
Avant de l'acheter, parce que...
Une fois qu'il est là, il est là. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner. Tu sais, vous pourriez dire, je sais qu'il y a un trajet à faire, je me suis arrangée avec ma voisine qui a un véhicule, puis s'il arrive un problème, j'y vais. OK, parce que, je veux dire...
Mais l'idée, c'est d'avoir la réflexion avant que la situation dramatique survienne, tu sais.
C'est ça, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, de comprendre que c'est pas partout qu'il y a des vétérinaires d'exotiques. C'est beaucoup plus dans les grands centres, parce que clairement, il y a plus de demandes à cet endroit-là. Fait que ça va être d'être capable de se préparer à ça, puis aussi de se dire, mettons que vous avez un conjoint qui aime vraiment beaucoup que ça soit propre dans la maison, hein, puis que ça soit clean.
Commencez à faire le deuil.
C'est ça. Commencez à tout de suite y penser et tout ça. Là. Fait que j'ai tout le temps ce petit point-là. J'aime vraiment beaucoup transmettre ma passion pour les oiseaux, mais En faisant ma technique en santé animale, j'ai comme eu plein de gens dans ma classe qui ont trippé ces oiseaux puis qui ont voulu en adopter et même qui en ont adopté. Puis là-dessus, il n'y en a pas beaucoup qui en ont nécessairement encore. Ouais. Donc, c'est juste des fois de faire attention pour ne pas donner je ne veux pas donner le goût. Mon objectif, c'est pas donner le goût à personne. Puis même quelqu'un me dirait, hey, penses-tu que je devrais adopter un oiseau? J'ai tout le temps tendance à dire non. Non. C'est non. Peut-être que non. OK. Puis c'est pas parce que. Tu sais, en plus, je pense que vous allez comprendre que je dis pas ça parce que je veux garder l'exclusivité des perroquets.
Tu veux toutes les avoir chez vous.
C'est ça, non, vraiment pas. Puis en plus, ben, en disant ça, je viens carrément mettre des bâtons dans les roues parce que mes clients, c'est ceux qui en ont. Sauf qu'au niveau éthique, première chose. OK, fait que.
Mmh. Ouais, ben, on ne se cachera pas aussi la longévité de ces petites bêtes-là, même de la plus petite des perruches, ça vit aussi, sinon plus longtemps qu'un chat, qu'un chien.
Mais ça peut vivre, c'est ça, une bonne 15-20 d'années, même pour une petite perruche. Ça dépend tout le temps de plusieurs facteurs. C'est comme les humains, mais il y en a qui vont vivre même des fois dans vingtaine. Fait que c'est quand même assez long.
Fait que c'est un pensez-y bien. C'est pas, tu sais, les gens qui ont un machin impulsif. Parce que j'insiste, c'est très dommage, mais des fois, en animalerie, une perruche, ça coûte vraiment pas cher.
Non.
Puis justement, ça s'achète vite d'un coup. Puis c'est un perroquet qui a une bonne longévité, qui va avoir besoin de soins puis de connaissances pour bien répondre à ses besoins, pour ne pas avoir de problèmes de morsure, des trucs de même.
Puis, vraiment.
Je veux dire, sont comparés à un achat impulsif de lapin à Pâques ou de hamster pour son enfant. Puis c'est la différence avec, mettons, le hamster, c'est que ça vit 2 ans, cette petite bête-là. Fait que si tu regrettes ton choix, ben occupe-toi-en du mieux que tu peux. Puis au bout de 2 ans, ça, c'est déjà terminé. Le lapin est en bas de 10 ans. Mais là, c'est ça, les perroquets, ça a une bonne longévité. Puis ça, on passe au coq-à-sel, je pense qu'on est rendu au-dessus de 20 ans, puis on passe après... Ça monte à 30, 40, 50 ans. Mais il y en a qui va te dépasser. Tu sais, tes adoptes à 40 ans, puis tu vas mourir, puis il va être encore vivant. Là.
C'est pour ça que j'aime vraiment le fait que tu as aussi dit que la perruche, tu sais, c'est un perroquet. Hein. Ça, il y a plein des gens qui considèrent que le perroquet, ça part de coq-à-sel, puis même il y en a pour qui ça part de...
Pas.
Une perruche, c'est un perroquet à part entière. Ils n'ont absolument rien, mais rien à envier aux autres gros perroquets. Rien du tout. Vous me diriez parler. Il y en a plein des perruches qui parlent. Être intelligentes, sont aussi intelligentes que Moira. Même des fois, Moira, je me dis, Tesla, t'aurais dû être une perruche, toi. T'sais. Ils sont tous intelligents. Ils ont tout ce qu'il faut. La perruche, c'est en plus un oiseau que, par de sa grosseur, ben, on peut lui donner un environnement qui est vraiment gros. C'est comme on a un environnement limité, mais on peut quand même donner beaucoup de place à un environnement de qualité.
J'avoue.
Tandis qu'un hara, tu sais, de se dire, mettons la pièce sur ce que toi, tu es en ce moment, Francis, ben, mets un hara ou deux là-dedans.
Ouais.
Tu sais, là, il vole, mais il est comme, tu sais, je veux dire, il fait
sans
pas de...
coincé, c'est ça.
Il se dépense pas, là, tu sais, il va pas partir. Fait que, de toute façon, on s'entend, ces oiseaux-là, c'est difficile d'avoir un environnement qui est assez gros pour dire, let's go, il se dépense comme un chien qui serait dans un parc à chiens, là, c'est pas le cas. Ouais. Fait que, le fait que c'est super accessible et vraiment pas cher, ça donne l'impression qu'une perruche, c'est justement...
Facile à s'entretien.
Ouais, ça coûte rien, donc on veut pas nécessairement mettre d'argent dessus. Donc,
ça vaut rien.
C'est ça.
Pour vrai, c'est triste à dire, mais je pense que c'est une idée qui des fois qui est pas loin dans l'esprit des gens.
Oui, ben oui.
Faut aussi soulever l'éthique de ça. Là. Peut-être qu'on ne devrait pas rentrer à fond complètement là-dedans, mais il y a des grandes questions éthiques à avoir un oiseau, un animal exotique dans sa maison pour sa reproduction, ça a été capturé, est-ce qu'on répond vraiment à ses besoins en tant qu'espèce?
Est-ce que c'est pour son bien-être? Est-ce que c'est son avantage d'être adopté, ce que tu dis?
Ben, même, tu sais, honnêtement... Quand j'y pense à chaque jour, je trouve que c'est aberrant que j'aie des oiseaux. Ça fait juste pas de sens dans ma tête. T'sais, dans le fond, ça n'en fait pas de sens. Fait que c'est vraiment difficile, je trouve, mentalement, de vivre avec ça, de se dire ils sont pas faits pour la captivité, t'sais. Fait que. Puis en même temps, de me dire, ben, ils sont là, fait que tu fais quoi? T'sais, je peux pas les remettre en nature, je peux pas payer un billet d'avion pour aller les remettre là-bas, ils survivraient pas, il y a des maladies, tout. Il y en a des fois qui voient ça super simple, mais il y a aussi de. T'sais, le Gabon n'a pas envie d'avoir les maladies qu'on a au Canada, mettons. Bon, tout simplement. Il y a plein de détails qui, même si demain matin, on claquait les doigts, qu'on pouvait trouver la solution pour améliorer tout ça. En ce moment,
c'est
on
pas
est.
Simple.
Il y en a en captivité. Puis des fois, je me dis.
Faut
s'en occuper. Fait que mon objectif, c'est vraiment que les gens aient, probablement ceux qui adoptent de façon responsable, puis après ça, qu'ils sachent un peu dans quoi ils s'embarquent. Fait que, justement, c'est quoi les places qu'on peut adopter un oiseau? T'sais, si vous dites ben, je veux vraiment un oiseau, puis j'en ai déjà eu, ou j'en veux un, mais c'est quoi les. en fonction de vos valeurs à vous, mais c'est quoi l'endroit où vous devriez aller. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'options. Il y a l'éleveur, comme on a dit. On a aussi les oiseaux qui cherchent une famille, autant dans un refuge ou les gens, la propre famille sur les réseaux sociaux qui va chercher une place directement pour son oiseau.
Puis ça, c'est relativement facile de trouver un oiseau comme à adopter, donc qu'une famille qui cherche à le relocaliser.
C'est fou les oiseaux en relocalisation hein, sans arrêt. Là, c'est vraiment, tu sais, on réalise pas quand on n'est pas dans le domaine, mais à quel point les gens gardent de façon générale, pas souvent les oiseaux. Fait qu'il y a toujours des centaines d'oiseaux qui sont en attente d'eux, autant dans des refuges un peu par-ci, par-là. Oui, mais... ouais, c'est ça. Puis dans des familles, fait qu'on peut facilement trouver beaucoup
de... J'imagine avec la longévité, encore une fois, de ces espèces-là, de beaucoup des espèces des perroquets, tu sais, les gens l'adoptent, ils en ont pendant 10-15 ans, ils se rendent compte que, oh mon Dieu, c'est compliqué, je suis tanné, je suis plus capable.
Exact.
Il reste au moins le double, si c'est pas le triple de sa vie. Fait que,
c'est il ça. Se promène. Ouais.
Il se promène. Il change de foyer une couple de fois dans leur vie.
Vraiment. Puis j'ai travaillé avec certains oiseaux, dont un cacatès qui était en animal russe que je travaillais. Puis il a été mis en adoption, mais il avait déjà eu plusieurs familles. Puis tu sais, c'est le genre d'oiseau que souvent le monde venait et disait « Ah, moi je l'ai déjà eu » ou « Je connais cet oiseau-là ». Fait que là, tu te dis « Mon Dieu, il a fait tomber des familles ». Puis depuis qu'il a été mis en adoption, moi ça fait peut-être c'est quoi, plus peut-être une dizaine d'années, peut-être que cet animal-là n'est plus là. Puis j'ai retracé cet oiseau-là à un moment donné, puis entre-temps, il avait fait je ne sais pas combien de familles, ça n'avait juste pas de sens. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste pris le temps de réfléchir à ben, ce petit individu-là, de moi, de ma petite vie, de ma carrière, parce que, tu sais, je veux dire, quand j'étais un bébé, je ne sais pas, il était où. Ouais. Mais il a fait peut-être une quinzaine de familles déjà, oh, tu sais, dans l'espace que moi, j'ai pu le voir aller, puis je me dis, c'est incroyable, cet animal-là, dans le fond, puis, c'est un peu...
On a toutes les raisons d'avoir ça, un donc, problème aussi après. En 10 ans, là.
Puis un cacatoès, je pense, ça vit 60 à 80 ans?
Oui, c'est pas mal dans la catégorie d'oiseaux qui vit le plus vieux, là, dans les études qu'ils ont faites, mais il n'y a pas d'études bien sérieuses tant que ça non plus, mais bon, il y a des révisions, fait que ça peut vivre vraiment, vraiment, vraiment vieux, puis là, on se dit, si la tendance se maintient...
Ben oui.
Il y a beaucoup de gens qui vont avoir eu cet oiseau-là. C'est plate parce que...
comme lui, ils vivent ça comment? Les oiseaux, les relocalisations, ils vivent ça comment?
Ben, c'est des animaux qui sont très résilients quand même. C'est vraiment impressionnant, honnêtement, parce que moi, je vivrais ça... j'aurais besoin de médication. Je capoterais. Je me promènerais comme ça, je ne serais pas capable. Mais en même temps, ça dépend évidemment de... C'est trop du cas par cas, parce qu'il y a des oiseaux qui vont vivre des mauvais traitements dans 2-3 familles. Là, si tu les as brisés, là, c'est fou qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais en effet, il va y avoir souvent des problèmes de comportement qui vont être liés à ça. Ou... Ces oiseaux-là, il y en a qui vivent bien ou qui le cachent bien, hein, parce qu'on n'est pas dans leur tête. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Des fois, on peut évaluer qu'est-ce que nous, on est capable de voir, puis dire « Ah, mais je trouve que basé sur son comportement, ça a l'air correct. » Je veux dire, il a l'air de fonctionner comme un oiseau normal. Il y a des problèmes de comportement qui s'expliquent par telle chose, mais ça a l'air de bien aller. Mais au fond, lui, il n'est peut-être pas bien. On ne peut pas savoir. Il y a des oiseaux qu'on voit que clairement, ils ont des troubles parce que c'est des oiseaux que tu t'échappes un truc, un crayon, puis ça se lance partout par terre. C'est la panique. Tu vois que la peur est comme constante, l'inconfort est constant dans son langage corporel. Fait que ça, c'est triste, là.
Ouais. Au pire, lui, au bout du fois, il fait comme bon, c'est bon, là, je pense que je sais quoi. Fait que les 50 autres prochaines qui l'attendent, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Fait que ça peut être une des façons. Fait qu'on peut, il y a, comme je disais, les éleveurs, il y a les oiseaux qui cherchent des familles aussi là, qui vont pouvoir être.
Perroquet secours ou quelque chose comme ça?
Perroquet secours, c'est vraiment un organisme fabuleux qui aide énormément pour les oiseaux qui sont perdus. Fait qu'eux, c'est un organisme qui vont afficher l'oiseau si quelqu'un l'échappe dehors ou il y a un incident, puis qui vont aider en donnant des recommandations, comment faire pour le retrouver, tout ça. Fait qu'ils ont principalement un réseau de bénévoles pour retrouver ces oiseaux-là. Puis quand il y a un oiseau dehors qui est trouvé, ben là, eux, ils vont chercher, coudonc, c'est acquis. Puis ils vont aussi aider pour la relocalisation. Fait qu'ils ont vraiment un organisme incroyable que je recommande. Fait que Perroquet Secours, c'est bien d'avoir mentionné. Mon Dieu, on dirait que c'est pas moi qui est dans le domaine, je suis là... pense pas au monde, mais merci.
Non, mais c'est nous qui questionnons, puis c'est comme perroquet secours, une fois, parce que moi, j'avais déjà pensé avoir un oiseau, puis j'avais mis mon nom sur une liste d'attente pour dire, ben, est-ce que je peux en héberger un que vous avez trouvé, puis que vous savez plus, tu sais. Donc, il y a cette possibilité-là aussi, je pense.
Ben, j'avoue que c'est un bon... si tu te questionnes, est-ce que je veux vraiment un perroquet, qui est comme la question que tu aimerais que les gens se posent?
Le but n'étant pas de l'essayer, là, parce que c'est plate d'essayer. Dans ce temps-là, c'est quand même, il se fait trimballer, là, mais si je peux le garder pendant qu'on retrouve ses parents ou quelque chose comme ça, je vais le faire.
Ils ont besoin de famille d'accueil, justement, puis ça peut être aussi, par exemple, un gardiennage. Parce que pourquoi tu disais tout à l'heure, Francis, est-ce qu'il vit bien les déménagements puis changer de famille, mais en même temps, il y a des oiseaux qu'ils vont être avec la même personne, mais qui vont déménager dans. Tu sais, il y a des gens qui sont nomades, là, carrément.
Oui. Fait que, oui, tout à fait.
Les oiseaux, s'ils commencent jeunes dans un environnement comme ça, bien souvent, ils sont adaptables, ils sont très résilients. Donc, ça dépend. Fait qu'il y a des gens qui, des fois, ils vont dire, ben, je pars en vacances, mais mon oiseau, clairement, il ne peut pas se garder tout seul. Puis les membres de ma famille ne peuvent pas, pour X raisons, s'en occuper. Tu sais, ça a des besoins particuliers. Fait que ça, c'est intéressant de dire, ben moi, je pense adopter un perroquet. Puis j'aimerais ça rendre service à quelqu'un, puis l'essayer. Tu sais, donc, garder. Vous faites d'une pierre deux coups, vous aidez quelqu'un, il y avait besoin. Cet oiseau-là, il va repartir. Fait que ça ne vous engage à rien en soi.
La personne va pouvoir te dire comment bien s'occuper de cet oiseau-là.
Oui, vous allez voir si ça vous convient. Est-ce que c'est trop bruyant pour vous? Est-ce que ça fait trop de dégâts? Comment la famille réagit aussi? Si vous avez d'autres animaux, comment ça se passe? Bon, évidemment,
peut-être... ramasser des petits caca partout, ça vous gosse parce que...
Oh, ça va être ça.
Des miettes de toutes les affaires qui détruisent.
Ouais, c'est ça, c'est très destructeur. Hein? Ça, c'est normal, c'est fait pour, comme ça, c'est fait pour ça. C'est bien, tu sais, on leur donne des morceaux de, tu sais, je vais donner des fruits et légumes, puis je sais qu'il va avoir un gaspillage. La moitié, je vais le ramasser sur le mur. C'est normal. C'est un peu comme un enfant. Tu sais, je veux dire, on ne met pas un enfant devant un plat de spaghettis en espérant qu'il va se comporter comme une princesse ou un genre de la bourgeoisie. Non, non, il va en mettre partout, il va les lancer, puis c'est parfait, c'est correct, il explore.
Leur job, c'est, tu ne savais pas, mais son jardinier, dans le fond, dans leur écosystème, ils plantent des graines partout, eux autres, genre,
Ben c'est vrai, eux autres, ils ont vraiment un... En fait, c'est comme une espèce de guerre entre les oiseaux et les arbres, tu sais, pour que eux autres, leur objectif, c'est comme des fois d'essayer de contrer l'oiseau pour qu'il attende avant de venir manger le fruit pour que, justement, tu sais, fait qu'il y a comme une... Il y a une guerre...
compétition entre les arbres et les oiseaux.
Oui, fait que les arbres ont évolué de façon à justement s'assurer que les oiseaux ne vont pas nécessairement comme tout briser ça parce que... Je veux pas, il y a des espèces d'oiseaux, puis il y a des espèces d'arbres que si tu y vas avec le fruit soit mûr, puis que tu prends juste une petite bouchée, tu le lances à terre, c'est fini, tu sais, c'est comme peut-être pas optimal. Ouais. Il y a un livre super intéressant là-dessus qui s'appelle Parrot of the Wild, qui est vraiment cool, qui parle justement de ça. C'est dans le fond les oiseaux, puis les études qui ont été faites en nature. Fait que c'est sûr que ça intéresse, Parrot of the Wild, je le recommande, je pense que c'est à ma troisième fois que je le lis. Toujours petits bijoux cachés. Mais cool. C'est ça.
Je mettrai la référence en description du vidéo.
Magnifique, parce que c'est vraiment un livre incroyable, mais il faut être prêt pour les oiseaux. Fait que je pense que ça peut être une façon pour choisir son oiseau. Il y a des... en ce moment, où on se parle, il y a un groupe qui s'appelle Gardiennage Perroquet Québec, quelque chose du genre. J'ai sûrement massacré le nom sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a parti ça, qu'on peut écrire « Hey, moi, j'ai tel oiseau, ça serait pour le faire garder et tout. Ah. » Fait que pourquoi pas aller là-dessus et dire « Hey, moi, j'ai pas d'oiseau, je suis telle région, mais j'ai pensé adopter telle espèce. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de faire garder? » Mon Dieu, les gens vont être contents. T'sais, c'est difficile à faire garder.
Ça, tu gardes un cacatoès pendant une fin de semaine, puis t'as compris que...
C'est sûr que
tu ne voulais pas de cacatoès.
Ben oui, la running gag du cacatoès qui
est super difficile. Exact. Fait que ouais, ça peut être un bon truc. Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui a un cacatoès à prêter pour une semaine? Ça, je suis sûre que oui.
Faire passer l'envie là, d'en avoir un. Non, mais pour vrai, moi, je trouverais ça drôle pendant une fin de semaine, un cacatoès.
Oui.
Ben, ça serait juste ça, une fin de semaine. Ouais, ça serait juste ça. Mais c'est « Tu l'aimes mon cacatoès, je te le donne! »
Pourquoi donc?
Fait que ça, on donc, a donc, mettons, gagné de l'expérience. On a choisi, peut-être, grâce à cette expérience, l'espèce qui nous plaît. Prochaine étape.
Ben, maintenant qu'on sait, c'est ça, à peu près où est-ce qu'on va et tout, puis mettons qu'on n'est pas sûr sur l'espèce, je veux juste laisser un petit... parler un petit peu des étiquettes, hein, parce qu'on a tous entendu parler des fameuses étiquettes, puis un peu les... Des façons
comme qu'on c'est des préjugés un peu.
C'est ça. Dans le fond, des fois, puis c'est normal en tant qu'être humain, ce qu'on va vouloir faire, c'est on n'aime pas ça, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas savoir dans quoi on s'embarque. Fait qu'on pose des questions, on veut savoir qu'est-ce qu'on va adopter, ça va être quoi. Fait qu'on aime beaucoup les sites où ce que ça dit, telle espèce, c'est ses qualités, ses défauts. Hein? Un peu comme si on magasinait. Ça, on aime ça, puis il y a une raison pour laquelle ça existe, c'est que c'est un besoin chez l'humain. Par contre, où ce que le bas blesse, c'est que il faut faire attention sur qu'est-ce que vous allez lire comme qualité, parce que chaque individu reste quand même unique. Hein. Puis il y a des variantes, l'environnement, la génétique, les apprentissages qui ne sont pas tenus en considération. Ça, c'est pas mauvais, ce genre de représentation-là. Puis il y en a des milliers de sites là, avec la connue, elle serait telle façon, telle façon, telle façon. Ils vous donnent une description comme si c'était un objet, tu sais, qui avait, qui n'était pas influencé par autre chose qu'une programmation faite par l'humain, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, c'est mes clients vont souvent me dire « Hey, j'ai lu ça, mais je pense que ce oiseau-là fit avec moi parce que j'ai lu ça, ça, ça. » Puis à chaque fois, je suis titillée, ben, je me dis « Ça se peut que ça soit ça, mais il y a de fortes chances que non. » Parce que des fois, c'est trop poussé sur...
Trop précis.
Trop précis, tu sais, sur la liste de l'oiseau, son tempérament. Puis encore une fois, c'est ça, le tempérament, il change au sein d'une même nichée. Fait que n'oubliez pas que...
C'est une loterie.
C'est ça.
C'est une loterie. T'as un individu, puis tu sais, moi, on peut bien dire les pugs, c'est calme, ça aime se faire flatter. Mon chien, il déteste que je le touche, tu sais, il aime pas ça être touché. Fait que même si j'ai pensé, ben, on s'entend que j'ai pas été acheté mon chien, c'est un rescue, je veux juste le dire. Comme piquer des roches, ce sera pas bien long. Mais bref, tu sais, tu peux avoir une idée globale, comme il y a des préjugés, mettons, contre les connures soleil.
Oui, oui. Parce que pour les cris, là, ça, c'est, je trouve que c'est un préjugé qui est relativement...
Valable,
parce que dans le fond, ils ont une bonne voix, puis ils sont faits pour crier. Fait que génétiquement, c'est difficile un peu de contrer ça, mais comme tu dis, il y en a des connures soleil, puis attention, hein, pour tous ceux qui ont des connures soleil en bas de 2-3 ans, vous dites pas le mien, c'est ça, il est en bas de 2-3 ans.
Oui!
Je suis désolée pour vous, mais en même temps, j'en connais... Donc, on en connaît tous, sûrement des pugs qui ne remplissent pas leur description de race en plus. Tu sais, je veux dire, qui
ont été.
Puis ils ne rentrent pas là-dedans. Ouais. Là, on parle d'espèces qu'on a un peu sélectionnées parce que c'est des oiseaux qui ont été reproduits. On n'a plus vraiment accès à des oiseaux qui sont kidnappés en nature.
Ah, oui, tant mieux aussi.
tant mieux, c'est ça. Parce que, bon, aussi au Canada, ça, on a réglé ce problème-là. Il y a assez d'éleveurs pour combler la demande. Puis il faudrait avoir beaucoup d'argent pour réussir à faire importation. C'est pas que ça n'existe plus. Mais au Canada, j'en ai vu peu. J'ai travaillé avec deux oiseaux qui avaient été pris dans la nature. Fait que c'est très rare.
Mm-hmm.
Puis. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire avec ça, mais ça parlait de... En tout cas,
La différence entre les races, les espèces, là, tu disais que les espèces que nous, on a au Québec sont...
Mais c'est ça. On a une différence. Tu sais, des fois, on va avoir une race, puis on est quand même un peu plus capable avec les chiens de dire, ben gars, ça fait X centaines d'années qu'on l'a sélectionné pour ça. Fait qu'on a une assez bonne idée, surtout avec certains éleveurs. Ils vont dire, regarde, moi, mon chien, ça fait X générations, puis le trait comportemental que je veux, c'est ça. Bon, d'accord. Mais avec les oiseaux, on a un peu sélectionné en fonction de qu'est-ce qui était... disponible. Hein. Un éleveur avait un couple qui se formait, il était comme parfait, merci, on y va.
Ouais.
Fait qu'il y a peut-être des traits comportementaux qui ont sorti là-dedans. Puis il y en a, ouais. C'est clair. Fait que faut
ça fait pas longtemps, mettons, je sais pas moi, gris d'Afrique au Québec, il n'y a pas eu comme 500 individus différents qui ont fait un pool génétique très varié. Là, tu sais, ça a été.
C'est ça qui est dur. C'est qui est parti? Puis c'est. Tu sais, mettons, même si tu dis, ah, mais à la base, c'était tous des oiseaux, surtout sauvages. Est-ce qu'ils ont été tous capturés dans cette région-là à tel moment de l'année où c'était toute une famille proche, puis c'est eux autres qui sont venus? C'est qu'on ne sait pas. Mais bref, faites attention à ça. C'est quand même, ça peut vous donner une bonne idée. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est aller voir sur Internet des vidéos de l'oiseau que vous pensez, mais faites la part des choses. Il y a peut-être plein des choses cute, mais prenez le temps d'écrire connure soleil qui crie. Allez.
Ah oui, checker les pays.
Oui. Oui. Ben oui, il fait comme Ara qui crie. Mais je pense que c'est une bonne recherche à recommander aux gens. Comme mettez le nom d'oiseau, puis comme Marc ici à côté.
Faut que tu regardes ça. Puis faut que tu le mettes le son fort. Puis j'avais fait une petite vidéo comme ça pour dire aux gens, si vous voulez un perroquet, vous devez y mettre. J'avais enregistré un petit peu mes oiseaux qui criaient. Fait que j'ai dit, vous mettez cet enregistrement-là à l'heure du souper pendant 15 minutes avec votre famille, puis vous prenez des poignées de riz, puis vous lancez ça à terre le matin avant de partir travailler. Puis, tu sais, pour donner une idée de qu'est-ce que ça va être, la réalité, tu reviens, c'est sale. Tu veux te reposer, ça peut crier, tu sais, parce que tu fais du bruit quand tu fais à manger, fait qu'eux, ils embarquent. C'est vraiment
on pourrait donner ces recommandations-là pour quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça peut-être avoir un enfant. » Parfait. Marc, enfant qui crie, laisse jouer ça, puis crise la boule par terre autour de ta table.
Oh, ouais. C'est ça. Tu te fais à manger, mais tu en lances la moitié. Tu te fais un plat que tu catapultes en dehors de la table, puis tu te dis « Bon, ben... » Puis en plus, t'attends, il faut que ça soit froid, tu sais, quand tu manges.
Ah, oui.
c'est juste des petites recommandations, des fois, pour que les gens y voient. Fait que, d'autres qui ont trouvé leur espèce, tout ça, ben Puis qu'ils savent, par exemple, ça, vous l'avez gardé ou c'est un oiseau de votre famille que ça fait longtemps que vous connaissez, puis là, vous êtes prêt, puis il arrive la semaine prochaine. Hey, c'est excitant, tu sais. Mais là, il y a des choses à faire. Fait qu'évidemment, je ne surprends personne en disant que votre environnement, pour lui, doit être prêt. Donc, il faudrait qu'il y ait soit une cage, une volière ou une pièce de prête. On ne veut pas arriver, puis il n'y a rien de monté, il n'y a rien de préparé. Ça va être stressant, le trajet, probablement, pour lui. Ça va être quand même une journée assez haute en émotions. Fait qu'en fonction, il y a plusieurs choses. Vous pouvez avoir, comme on dit, une cage, mais vous pouvez avoir ce qu'on va appeler une volière, c'est tout simplement que la grosseur pour l'espèce permet de voler. Puis là, il y a plein de grandeurs. Puis il y en a qui vont vraiment sécuriser une pièce pour l'animal. Fait que ça, c'est plus complexe dans le sens où tu dois avoir faire attention aux fils électriques, aux fenêtres, pas qu'ils se cognent. Tu dois être prêt à ce que s'ils détruisent des plaintes de murs, bref.
Ça demande un petit... parce que c'est ça, là, les oiseaux, ça vole, hein?
Ça vole.
Donc, les plafonds, si c'est des plafonds avec des tuiles, ça peut peut-être leur tenter de s'accrocher là, de gruger des trous puis rentrer dedans.
Suspendu, là.
Oui, tu sais, un plafond suspendu, mettons qu'ils décident de ça, c'est impossible. C'est sûr que un plafond suspendu, il faut changer ça. Tu peux pas mettre l'oiseau là-dedans libre parce que.
Tu mets un filet pratiquement là, si tu peux pas l'enlever ton plafond suspendu.
Ben oui. Parce que sinon, lui, il va rentrer, mais il va être pris. Puis il y a les oiseaux les oiseaux nichent en cavité, fait que dans des endroits sombres, creux d'arbre. Si lui, il défait un petit coin, puis il est comme « Oh wow, la cavité, toi! Oh mon Dieu! » Puis il rentre, puis c'est la caverne d'Alibaba. Il est comme « C'est une immense cavité avec plein de fils que je peux aller m'électrocuter. »
Oui, c'est ça.
C'est une mauvaise idée. Fait que mettons qu'on y va, ce qui est plus standard, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les gens ont une cage pour l'oiseau, fait qu'on installe nos perchoirs, on installe tout notre kit. Puis en fonction que ce soit un oiseau que vous connaissez, absolument, c'est pas des oiseaux qu'on connaît. Souvent, c'est soit un jeune oiseau ou un oiseau qu'on adopte d'une personne inconnue. Ouais. Moi, je te recommande tout le temps que les premiers 24-48 heures, on y laisse le temps de s'adapter à cette maison-là. T'sais, on a tendance à vouloir faire comme « Hey, je vais aller présenter à ma famille, je vais y aller. » Tu sais, avec les chiens aussi, c'est ça, un chiot. Peut-être pas le temps d'emmener dans le tour, puis toute la journée, aller voir papy, mamie. Puis t'sais, non, même chose pour l'oiseau. Là, il y a son environnement qu'il faut qu'il s'adapte. Puis surtout, c'est une proie. Hein, fait que c'est vraiment important pour eux de se soucier, mais c'est surtout...
De réaliser qu'ils sont en sécurité.
Oui.
De se sécuriser.
De se sécuriser, mais surtout, tout est potentiellement dangereux parce que, bon, ils sont un peu en bas de la chaîne. Hein, fait qu'ils font attention. Fait que quand il va arriver chez vous, il va probablement être très inhibé. Puis il va être très... il va avoir l'air, en tout cas, bien sage. Mais il va observer. Fait que, tu sais, on l'installe confortablement. On s'assure qu'il a accès à l'eau. Moi, ce que je fais, si tu as mes clients, assurez-vous qu'il mange, qu'il trouve sa nourriture, qu'il se retrouve dans son environnement. Puis une fois qu'il est à l'aise, bien là, on peut commencer les interactions avec lui. Fait que c'est sûr que si l'oiseau, là, il a été hyper socialisé, ou vous le connaissez, puis il est de même, puis il a envie de sortir, puis vous avez envie de le sortir, c'est pas pareil, là, clairement. Tu sais, c'est... On se comprend, on y va en fonction de notre individu. On n'est pas obligé de se faire douleur puis de torturer en regardant l'oiseau pendant 48 heures. Okay, il est prêt, il est prêt. Mm-hmm. Mais quand même, okay, faites attention. Puis, un petit point là-dessus, tu sais, si vous sortez l'oiseau puis vous ne le connaissez pas, puis que là, il part dans la maison puis il s'envole, puis qu'on oublie qu'il n'y a pas de chance qu'il se blesse, mettons que vos fenêtres étaient couvertes puis il ne pouvait pas se cogner dans les rideaux, puis là, il y a juste ses
ventilateurs.
Pas de ventilateur, la boule de toilette n'était pas ouverte, il n'y avait pas de verre d'eau, bref, c'était sécuritaire, fait que tout était révisé. Les ronds de poils n'étaient pas chauds. Mettons qu'il se perche à quelque part dans votre salon, puis vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, puis vous ne pouvez pas le laisser là indéfiniment, sa maison, elle est là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quoi vos options? Puis là, si on parle plus en termes de tous ceux qui connaissent l'entraînement, ça va être probablement aversif. Tout ça.
Oui, parce qu'il faut le plus rapidement aller le chercher physiquement, contre son gré.
Pas le choix, tu sais, il va pas, il connaît pas sa maison, il sait pas où est-ce qu'il faut qu'il retourne. Si vous pensez que la faim va le guider, il va avoir le temps de mourir 15 fois avant de se retrouver à sa cage. Tu sais, c'est comme non, c'est malheureusement, ça part mal une relation. Tu sais, les premières journées, les premières interactions que vous avez eues, vous l'avez contentionné, puis pour une proie aïe, ça c'est quand même pas cool, tu sais, vous l'avez attrapé tel que vous alliez en faire le souper.
Cool.
C'est ça, puis là finalement il est comme, il n'a pas fini dans un poil, mais mon Dieu c'était épeurant. Fait que c'est une autre des raisons pour lesquelles c'est bon de développer un lien avec l'oiseau, peut-être de commencer si par exemple dans vos deux cas ça serait dans la pièce où ce que vous êtes, bien, il y a l'environnement de l'oiseau, puis on ferme la porte, on y va doucement, tu sais, moins de risques et ils partent à l'autre bout du monde. Fait du sens?
Wow. Ben certain.
Beaucoup.
Puis toi, tu sais, tu as parlé de cage, volière, chambre.
Yes. Ouais.
Naturellement, c'est en fonction de la grosseur de l'oiseau, parce qu'il doit, encore une fois, les perruches versus les cacatoès ou aras qui vont être vraiment plus grands. Mais y a-tu, mettons, pour une perruche, même si elle est très petite, est-ce qu'une chambre pour une perruche est tout à fait acceptable? Y a-tu comme des dimensions? T'as-tu des recommandations ou du moins des endroits où est-ce que les gens peuvent aller chercher les infos par rapport à ça?
Très bonne question. Le plus gros, le mieux, toujours. En fait, ce qu'ils ont aussi beaucoup vu dans les zoos, puis ceux qui entraînent des oiseaux dans des grands environnements, c'est que plus l'environnement est grand, plus c'est facile d'interagir avec l'oiseau parce qu'il sait qu'il peut s'enfuir. Fait que plus c'est petit, plus il y a des comportements qui peuvent émerger d'agression, tout ça parce qu'il se sent pris. On voit un peu le même principe, un chien en laisse pourrait réagir plus fortement. Tu sais, il est pris. Ouais. Même chose, fait qu'avoir une pièce pour une perruche, ça serait incroyable. Ça serait même, je veux dire, j'ai tendance à dire « wow » parce qu'on le voit pas souvent, mais c'est pas si intense que ça, parce que, bon, la destruction aussi est plus... est moins...
Moi, je te dirais que je préfère fort probablement juste passer à la balayeuse puis faire la mop que nettoyer une cage.
Ouais, puis barreau par barreau, tu sais, puis...
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est quand même long, fait que le gouvernement du Québec sur la loi sur la conservation...
Oui, celle qui s'en vient, la nouvelle modification pour 2024, là.
Bien, ils ont fait des modifications en 2000... 16, quand je faisais mes stages, ouais. C'est la loi avait comme un peu changé plus rapidement. T'sais. Fait que là, ça continue. Puis, ils ont mis des dimensions minimales en fonction des espèces de perroquets. Mais c'est vraiment de la base.
Minimal.
C'est le minimum minimum. T'sais, je veux dire, ça veut dire que vous êtes légal.
Ouais, c'est ça. C'est minimum légal, ça veut pas dire que c'est le minimum pour leur bien-être. Là. C'est...
Vraiment pas. Non, puis il y en a que c'est vraiment... l'oiseau, c'est mettons qu'il est long de même, ben la grandeur de la cage, il faut que tu ajoutes un petit... T'sais... Non, ça,
oh, bon oh, boy!
Oh. Okay, il peut se retourner avec les ailes ouvertes, mais c'est tout, tu sais. Fait que clairement, on va avoir des problèmes de santé physique là-dedans. Mm-hmm. Les muscles vont s'atrophier, l'oiseau va avoir de la difficulté à voler. C'est... Non, le plus gros, le mieux. Mais au moins, ça
va avoir un perchoir. Il va avoir un perchoir flat, il va avoir des petits points de contact, il va avoir des petites maladies de pépates.
C'est ça, il n'y aura pas... Puis même là, ils ont changé, il faut deux types de perchoirs maintenant. Fait que déjà là, c'est bien, tu sais, mais en même temps, mettons quelqu'un qui me dirait, c'est là qu'il faut prendre un peu... faut faire attention, mais tu sais, quelqu'un qui me dirait, moi j'ai une pièce, puis c'est juste du bois, plein de perchoirs à bois, mais de plein de dimensions, mais c'est parfait, parce que veux pas, mon oiseau dans la nature, ça va être pas mal ça, tu sais, fait que on peut prendre des arbres, puis aller mettre ça dans nos pièces. Là. Donc, l'oiseau, il y a quelque chose de super naturel. Puis moi, j'aime ça au printemps, ajouter des branches qui a des bourgeons dessus. Ça, ils ne vivent pas vieilles. Là. Ils sont tout de suite détruits par les oiseaux, mais c'est le fun. Fait que c'est ça. Vous pouvez aller voir les recommandations minimales en gardant en tête que c'est le minimum. Le plus gros, vous allez pouvoir donner le mieux. Puis ça peut être au fur et à mesure que vous avez un plus grand budget ou vous déménagez ou, tu sais, on évolue comme ça, puis c'est vraiment correct.
Une collection qui va se bonifier avec le temps.
Exact. Puis ça, c'est pour faire attention pour pas donner, de rendre les gens mal à l'aise par le fait qu'on trouve que c'est trop petit l'environnement de leurs oiseaux, c'est de les éduquer, leur donner des ressources, leur dire, hey, qu'est-ce que tu préfères pour bonifier l'environnement, puis de comprendre aussi que c'est des coûts, hein. Puis on a des gens qui vont arriver difficilement à rejoindre les deux bouts, mais qui ont un oiseau depuis X nombre de temps, qui était peut-être à l'aise monétairement quand ils l'ont adopté. Fait que faites attention au jugement. De dire, ah, il ne devrait pas avoir d'oiseau. Mais peut-être que ça allait super bien, mais que la personne, là, elle a un lien avec ses oiseaux, elle les aime, puis c'est sa famille. Puis là, elle met tout son argent déjà dans eux. Fait que si tu arrives avec tes gros sabots, puis tu dis, faudrait que tu leur fasses une pièce. La personne est comme moi, mais je mange même pas ce que je souhaite. Je ne vais pas au resto avec mes amis. Relax, tu sais.
Tu ne l'aimes pas tant que ça, tu sais.
Non, non, c'est ça.
C'est d'aider, là. Fait que des fois, faut aider comme les gens veulent être aidés aussi.
Oui, oui, ouais. Aussi.
Ça a un certain sens.
Une chose à la fois, tu sais. Des fois, ça de dire, ah, ben, on peut peut-être agrandir l'environnement ou ajouter un petit peu d'enrichissement. Puis ça, c'est une autre chose qu'il faut penser quand on adopte un oiseau, tu sais. Avoir des jouets, de l'enrichissement, hein, puis s'assurer que son environnement va être le fun, puis ça va ressembler à une petite jungle un peu, là, donc pour l'occuper. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on n'aurait pas le temps d'aller en détail, là, mais qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup
faut envisager.
Moi, j'ai des questions, le rapid fire question pour toi.
Ready.
Parce que je pense qu'il y a des grands classiques qu'on a besoin de t'entendre dessus. Les perchoirs en papier sablé.
Ah oui, Bon, ça, non. Je veux dire, je ne sais pas qui pense que limer des pattes alors que 90% de la surface, c'est de la peau. Tu sais, je veux dire, la griffe, elle touche une toute petite partie. Non, non, c'est pas comme ça. Fait que si c'est du papier sablé puis quelqu'un voudrait vraiment à mettre, mettons, on parle de ça, revire là à l'envers, le papier sablé en dessous du perchoir, c'est là que les griffes se retrouvent. Tu sais, déjà là, des fois, il faut commencer doucement avec une personne pour changer la mentalité, ben, en dessous, pas sur dessus, ça sert à rien. Tu dois faire de la pododématie.
C'est ça, c'est pas. Les blocs là, pour s'aiguiser le bec, c'est des questions que j'ai aucune idée.
Les blocs de genre de gros-ish, minéraux, je sais pas.
Il y a des blocs de minéraux, il y a des blocs qui sont plus d'argile, dans le fond. Il va y avoir des blocs aussi qu'on va voir, c'est des os de sèche, qui est un poisson, donc c'est vraiment du
calcium. C'est ça, oui.
Fait que là, il y a plein de types. Le calcium, l'os de sèche, c'est vraiment un bon. Hein, tu sais, je veux dire, surtout si ça veut un oiseau peut-être qui va pondre, c'est un oiseau de femelle qui pond, elle a peut-être un besoin en plus de calcium. Fait qu'il n'y a pas de contre-indication nécessairement au niveau du calcium. Faites une vérification avec votre vétérinaire. T'sais, je vous dirais, c'est vraiment ça en fonction de votre espèce, de l'oiseau, tout ça. Peut-être que le vétérinaire va dire, ben, il gruge pas l'os de sèche, mais tu devrais peut-être l'ajouter dans la nourriture, sur sa nourriture fraîche et tout. Et pour certains, il y a le gravier qui existait, qu'on voit hein, dans le fond, qui est vieux, là, que. Ben vieux. C'est parce que moi, j'ai la vieille image en animalerie, le gravier, parce que c'est un pigeon dessus. Ben, il y a des espèces d'oiseaux comme les colombiformes qui ne vont pas écailler les graines. Donc là, oui, avoir du gravier pour aider au niveau.
Parce qu'il faut qu'ils ingèrent des roches pour que dans leur gésier, mécaniquement, les graines se fassent concasser par les roches qu'ils ont.
Alors que chez le perroquet, il y a graines. Dans le fond, l'écaille, il l'enlève. Si quelqu'un a déjà donné du billet à sa perruche, on a l'impression qu'elle. Et la gaspille, mais non, ça fait qu'il y a une petite enveloppe sur sa toute petite boule, puis ils écaillent ça, fait que là, ça fait un bordel incroyable. Fait qu'il n'y a pas de nécessité à ce moment-là d'avoir du gravier pour ces oiseaux-là. Au contraire, on pourrait peut-être causer une impaction parce que, tu sais, il faut faire attention. Mais il y a beaucoup, tu sais, il y a plein de sortes de suppléments qu'on peut mettre. Puis il y a l'argile qui est vraiment bon. Vous avez sûrement déjà vu l'image des oiseaux en Amérique du Sud qui sont sur des falaises, là, puis qui sont en train de manger dans.
Il y a plein de théories là-dessus. Hein. Moi, nous, c'était comme pour neutraliser l'acide de certaines noix, plus que blablabla. Mais finalement, en tout cas, c'est compliqué cette affaire-là.
C'est ça, c'est encore un mystère. À moins qu'il y ait des études qui ont sorti depuis 2021, puis que je n'ai pas vu la conclusion là, de tout ça. Puis que, en tout cas, moi, au dernier moment, justement, il y avait plusieurs hypothèses qui restaient à tester. Ils étaient peut-être presque toutes vraies, parce qu'en effet, ils ont vu qu'il y avait des propriétés. Peut-être pour neutraliser, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont s'alimenter, qui pourrait être finalement nocif, finalement. Bon, ça les aide avec ça. Théorie, hypothèse, bienvenue dans la science. On au
contraire. Pourquoi est-ce que les chats et les chiens mangent du gazon? Ah, on ne le saura jamais.
Pour vomir,
oui, mais pourquoi, en tout cas?
Urge, comme dirait.
Pour me gosser.
C'est ça, il y a plusieurs. L'argile, en tout cas, juste pour finir là-dessus, moi, je ne vois pas à en donner, j'en donne de temps en temps, fait que
je sais ça. Mais ça me fait penser, juste vu cyclement, comme ça touche le volet nutrition. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner à mon animal pour qu'il soit en santé? T'as-tu une recommandation générale? Parce que chaque espèce va clairement avoir des besoins nutritionnels différents versus deux chiens peuvent avoir des besoins nutritionnels très similaires parce que c'est la même maudite espèce. Mais pour que les gens aient la bonne information, parce qu'il doit y avoir des tonnes d'informations mauvaises partout.
Oui, qu'est-ce puis que honnêtement, on n'est vraiment pas rendu. Il y en a qui vont vous dire « Ah, on le sait ». Non, c'est pas partout. On n'est vraiment pas rendu là parce qu'il n'y a tellement pas d'études qui ont été faites autant dans le milieu naturel, parce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui sont dures à suivre puis de voir qu'est-ce qu'ils mangent. Tu sais, les gris du Gabon, quand ils sont en haut de la canopée puis que ça mange, c'est pas trop c'est quoi qui. En tout cas, pour ceux qui ont déjà fait de l'ornithologie, on se casse le cou juste pour regarder des parulines.
Littéralement, oui, c'est ça.
C'est de même, là, tu sais, pendant des. Non. Fait que, il y en a des études qui ont été faites, mais c'est difficile de suivre une gang d'oiseaux puis de savoir et tout. On est quand même pas pire, là, je trouve. Là, il y a vraiment beaucoup d'avancées parce que ça fait des années qu'on les a en captivité. Mais si on se fie, puis j'aime bien me fier aux vétérinaires, qu'est-ce qu'ils vont recommander, évidemment, ben c'est vraiment une nourriture qui va être à base de moulée que les vétérinaires recommandent pour éviter que les gens fassent leur propre mélange puis se trompent, puis que ça ne soit pas équilibré. Puis d'ajouter.
Moulée, non pas graines. Spécifier. Ce ne sont pas des graines.
C'est pas des graines. C'est ça, c'est de. Les vétérinaires, ils essaient que les gens arrêtent d'acheter des mélanges de graines. Parce que les mélanges de graines, clairement, si on le sait que c'est pas bon, il manque de vitamines, ça va vraiment causer des problèmes. Puis. En soi, il y a certaines espèces Puis j'ai écouté une conférence super intéressante avec le docteur Julie Hébert, il y a plusieurs années, du Centre vétérinaire Laval. Elle parlait de la nutrition, puis elle expliquait que même une tournesol qui pousse dans tel pays versus ici n'a aucunement les mêmes valeurs nutritives. Fait que déjà là, c'est difficile de faire des comparatifs, de dire « il mange ça là-bas, oui, mais toi, tu n'as pas accès à ces tournesols-là qui ont...
Wow. »
Fait que c'est très, très, très
les compliqué. Bananes aussi, tu sais, parce qu'au biodôme, nous, on donnait certaines bananes, mais la banane...
Ben oui, la banane plantain ou... voilà, ouais.
Pas la même affaire, contenu en sucre. Puis, tu sais, aussi, tu te dis, oui, en nature, il y a accès à ça, mais c'est peut-être par dépit. Est-ce que c'est la meilleure chose qu'il pourrait avoir? Tu sais, souvent, en tout cas, pour certains animaux, ils vont vivre beaucoup plus longtemps en captivité parce que, ben, ils ont accès à des soins vétérinaires et tout, ils sont un peu plus suivis.
Clin
ils sont
d'œil, pas, l'alimentation crue.
clin d'œil.
Puis, ils ont t'sais, on peut gérer le fait que tu ne manges pas juste une pomme parce que tu as trouvé une pomme.
Oui, puis en plus, on a vraiment tendance à rendre ça magique, la nature. C'est Disney, puis c'est du bon. Non, j'ai travaillé en ayant un refuge pour les oiseaux sauvages, puis c'est pas beau. Là. Ils arrivent souvent, ils sont mal nourris, ils n'ont pas trouvé. T'sais, on pense que vu qu'ils sont dans la nature, ce qu'ils mangent automatiquement, c'est que c'est bon. Fait que qu'on observe un individu, s'il l'a mangé, c'est que c'était, il savait que c'était ça. Non. Pas du tout. Fait que c'est vraiment là la nuance. Fait que je vous dirais, si vous avez des questions sur la nutrition, ben trouvez-vous un bon vétérinaire aviaire, puis vraiment vérifiez avec lui. Tu sais, je ne veux pas m'embarquer full longtemps sur le sujet, mais moi, de façon générale, c'est ça que je vais faire. Mes oiseaux, c'est de la moulée, donc c'est pas des mélanges de graines, mais ils vont avoir des graines, des noix, des fruits, des légumes, mais surtout en enrichissement. Fruits et légumes, bon, j'entraîne pas avec ça. Là, un morceau de brocoli, sérieux, il ferait pas grand-chose pour ça. Il ferait comme sérieux, non. Mais c'est de l'enrichissement, de la stimulation. Tu sais, mettre un gros brocoli dans la cage, je sais qu'ils vont avoir détruit de trois quarts, lui, il va en avoir mangé un petit peu. Fait que trouvez-vous un vétérinaire, tu sais, qui fait un partenariat avec vous, que vous êtes à l'aise, vous parlez, puis vous pouvez échanger sur la nutrition, puis aussi qui va s'adapter à votre oiseau puis votre espèce en fonction des connaissances très minces et maigres que nous avons.
Ah, cool!
Oui, mais moi, je trouve ça important de dire que c'est comme plus complexe qu'on pense, l'alimentation pour les oiseaux, tu sais.
Ouais.
De montrer que oui, tu vas en avoir acheté des fèves puis du brocoli pour tes oiseaux, puis oh, est-ce que les fruits c'est bon, est-ce que les fruits c'est pas bon, est-ce que tu sais, donc plein de petites questions que des fois on prend pour acquis que ça mange des graines ou ça mange juste de la moulée, puis t'es comme
ouais, évidemment, c'est ça, c'est plus complexe, puis c'est intéressant de savoir qu'on est dans, là on est en 2022, peut-être que si on écoute ça dans 100 ans ou 200 ans, on va dire hey, mon Dieu, on était tellement pas avancé, on connaissait rien.
Mais c'est ça. Le Moyen-Âge des perroquets.
Exact. T'sais, surtout côté nutrition, on se fie beaucoup à ce qui a été fait dans les, au niveau des poules et tout ça. Là, on est là. Fait que c'est quand même espèce d'un.
Puis sinon, je pense que la dernière chose, moi, c'était les poils.
Les poils?
Il n'y a pas quelque chose de toxique. Ouais.
Oui, ça, c'est bon de parler de tout ce qui est toxique. Je pensais que tu disais les poils de chien. Ils n'ont pas de poils.
Les poils. Non, les
poêlons,
les chaudrons. Mais elle est toute toxique en général. Quoi, genre, ne jamais avoir dans la maison ou mettre à portée d'un perroquet?
Il y a tellement de choses. Puis, en gros, pourquoi? Vite, vite, là, le système respiratoire des oiseaux est très efficace. Donc, toutes ces choses-là que je vais vous parler qui sont nocives, ils sont en fond techniquement pour nous. C'est juste que nous, on est capable de survivre en fumant de la cigarette, OK? Notre système respiratoire, il n'est pas aussi bon. Un oiseau, la façon que ça respire, mettons qu'il prend une inspiration puis qu'il expire, à cette expiration-là, là, il n'a pas encore expiré l'air qui vient d'inspirer. Okay? Fait que ça prend deux cycles. Fait que, bref, c'est complexe. La première fois qu'on m'a présenté cette info-là, je ne la comprenais pas, je me dis c'est impossible. Non, eux autres, leur système respiratoire est très, 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 très efficace. Les poumons, ils ne bougent pas. Là. Les poumons sont fixes. Il y a toujours de l'air, toujours des échanges qui se passent en tout temps.
Puis moi, j'aime donner l'exemple de, tu sais, quand on est dans une piscine, puis l'on inspire, on flotte, tu expires, tu cales, bien, l'air, c'est aussi une piscine, puis s'il vole, il ne faut pas qu'il fasse à chaque respire.
Oh, ça ferait quand même.
Il y a toujours de l'air en circulation dans eux, fait qu'ils restent un petit peu plus, disons, stable.
Puis surtout, le système respiratoire passe dans les os, il passe, tu sais, vraiment comme partout. Quelqu'un qui arriverait à... puis il voudrait poser un cathéter intra-osseux sur un oiseau qui n'a pas de connaissance, il peut le noyer. T'sais. Il y a des os que tu évites absolument parce que ben, tu vas y rentrer direct dans le système respiratoire. Il va mourir là. Ils ont des sacs aériens. Moi, j'avais beaucoup d'oiseaux qui arrivaient au refuge qui avaient pété un sac aérien. Fait qu'ils ont l'air d'être un ballon sous la peau. Ils sont tout gonflés parce que ça passe en dessous de la peau. Puis là, ils gonflent. Fait que là, tu le tiens, puis il est tout mouche, tu sais. Fait que c'est ça, il faut qu'il répare son sac à rien. Fait que c'est pour ces raisons-là qu'il y a plein de produits que nous, on survit, c'est probablement pas bon, mais qu'eux, ça va les tuer. Pourquoi on prenait les petits canaris dans la mine pour les amener avec nous?
Ah oui, parce qu'ils sont full sensibles au gaz.
C'est tout de suite. Le petit canari, s'il tombe, ça veut dire, OK, tout le monde, on court. On s'en va, c'est le temps, parce que, bon, lui, il est notre détecteur dans le temps. Et merci, on n'a plus besoin de ça, c'est assez terrible. Fait que les poils, tout ce qui est des revêtements antiadhésifs de type Teflon, puis tout ça, tout ce qui aide pour nous, là, notre cuisine, ben, c'est une espèce de fumée. Pas une fumée, pardon, c'est un gaz qui inodore, qui on ne voit pas rien. Puis ce gaz-là est super toxique pour les oiseaux. Quand je travaillais en clinique, j'en ai jamais vu qu'on avait sauvé une fois qu'il avait été en contact avec ça. Oh. C'est vraiment triste. Est-ce que c'est parce qu'il était pris trop tard ou je sais pas, mais c'est vraiment nocif. Même chose, juste un four auto-nettoyant. On part jamais ça quand on a des oiseaux, jamais. C'est super toxique. Il y a même des fois les dindes là, comme à pré-cuire là, dans l'enfant qu'ils ont. Je sais pas parce que je mange pas ben de dindes, mais ça, c'est super nocif. On ne peut pas acheter ça, le faire cuire dans notre four. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai des poils.
C'est-tu quand on a un oiseau dans la maison ou genre quand on a un oiseau à proximité?
Je vous dirais, moi, prenez pas de changer vos poils, tout ça. Moi, personnellement, j'en ai des poils avec du Teflon, mais il y a une règle d'or, c'est que je mets bien du beurre au fond avant de partir la chaleur, puis je m'assure qu'il y a un corps gros de l'huile. Fait que c'est sûr que ce gaz-là ne va pas partir s'il y a bien du corps gros. Puis mes oiseaux sont à l'opposé. T'sais, je ne vais pas cuisiner avec un oiseau sur mon épaule. Mais idéalement,
t'es dans le tapis.
C'est de la hotte, tout le kit, c'est ça. Fait que idéalement, on veut changer notre. Si c'est possible. Encore une fois, on a des gens qui apprennent après, qui sont comme, j'ai pas 1000$ pour tout changer mon équipement. Puis les parfums, tout ce qui est, mettons, Febreze, ou les
tapes nettoyants, les fragrances.
Tout ça, ça peut être super nocif parce que, bon, ça vient pogner dans le système de l'oiseau. Les bougies, donc on fait un deal, on fait un deuil, j'aimerais dire, de bougies.
Vie dans le noir quand t'as plus d'électricité, fini.
Ben, les bougies, c'est comme non parfumées. Techniquement, il n'y a vraiment pas de problème. T'sais, comme j'ai déjà eu une panne d'électricité avec mes oiseaux, puis la température descendait, c'était affreux. J'ai mis tous les oiseaux dans la même pièce, j'ai mis des couvertures dessus, puis j'ai allumé des bougies qui n'avaient pas de
fragrance. C'est ça, c'est vraiment le côté molécule de parfum. Là.
Ça, puis il y en a en plus que c'est à base de cire d'abeille. Ou, c'est super.
Ah,
oh,
OK,
ben
oui.
Du grotte d'ours. Ou... je ne sais pas tout les types de bougies qui sont faites. Là, fait que c'est vraiment de se renseigner auprès de son vêtement qu'est-ce qui est sécuritaire. Puis on était allé dans la pièce pour réchauffer, fait que ça peut se faire, mais mon nouveau copain, il a acheté une bougie, il est arrivé avec ça, puis en rentrant, il a fait « Tu peux pas? » J'étais comme « Non », il était comme « Ah! » C'est vrai, c'est normal, c'est une grosse adaptation. Fait que tout ce qui est, techniquement, le docteur Scott Eccles, qu'est-ce qu'il disait, c'est tout ce que tu peux sentir, qu'on sent, on arrête. Fait que même les produits ménagers qui sentent bon, on arrête ça. Fait que ça fait quand même vraiment beaucoup. Là, disclaimer, chacun a ses limites, chacun a ses propres. Faut pas aller trop. C'est ça, faut faire attention quand même aussi. Là, techniquement, vous mettez un peu de vinaigre dans la chaudière, ça sent, ben là, faut pas dire ah mon Dieu, ça sent le vinaigre, il va mourir. Ils vont quand même survivre à ça. Fait que chaque personne est différente. Moi, j'en utilise des produits ménagers qui ont une certaine odeur parce que je veux pas, ben j'ai un chien, hein, puis des fois, le printemps, l'automne, il revient mouillé, puis je veux pas que le plancher sente le petit chien. C'est ça. Fait, allez voir la liste avec votre vétérinaire. Soit les vétérinaires ou l'éleveur vous donnent une liste. Là, il y a plein de choses. Il y a des plantes qui sont toxiques, tout ça. Là. Fait que, assurez-vous aussi, mettons, l'aliment qu'on connaît chez les oiseaux qui est toxique, c'est l'avocat.
Ouais.
Vraiment faire attention.
Genre tout de l'avocat, genre, me semble.
Tout de l'avocat. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'en nature, il en mange de l'avocat. C'est juste que nous, on le sort de l'arbre trop tôt. Fait que c'est vraiment. Pour l'oiseau. C'est ça, c'est qu'il est expliqué qu'il y a des espèces de perroquets, pas tous, mais des espèces de perroquets que si quelqu'un se retrouvait où il y a des avocats, dirait ça fait pas de sens. Pourquoi on m'a dit que les oiseaux ne peuvent pas manger d'avocats? Ils sont dans l'avocat, ils en mangent en ce moment. Mais c'est vraiment dans le processus. Là. Je ne sais pas si j'estime, puis je me rappelle, il me semble que ça se passe trop tôt. On ne peut pas l'enlever trop tard.
Oui. Parce que je me dis.
Le yob est d'un détail.
Ben oui, c'est comme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais les cucurbitacées produisent de la cucurbitacine. Puis, genre des courgettes, si tu les prends très, 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 très tôt, genre vraiment pas assez mûr, ça va être super pas bon, là, tu veux pas manger ça. Mais bref, c'est super toxique. C'est toxique. Puis, je me souviens d'une situation qui avait été documentée où est-ce que genre, un couple de personnes âgées qui ont des courgettes vraiment pas mûres, ils ont fait une belle salade de courgettes, ils en ont mangé. Puis, elle goûtait pas bon, mais ils voulaient pas gaspiller, fait qu'ils en ont mangé trop, puis ils sont morts.
Oh, OK, fait que, ouais, la toxicité est réelle, là.
Elle est réelle, c'est juste que la cucurbitacine est extrêmement présente quand c'est pas mûr, puis elle va se disparaître ou s'altérer avec la maturation du fruit.
Fait qu'encore une fois,
hein, après, l'avocat, c'est peut-être de même. Hein.
C'est ça, puis encore une fois, on se rend compte comment que la nutrition, c'est complexe, t'sais. C'est oui. tellement plus qu'on pense. Fait que, bref, là, je sais que pour tous ceux qui sont bons dans les oiseaux, puis experts, des amateurs d'oiseaux qui en ont plein à la maison, qui se disent, mais mon Dieu, il y a tellement de choses plus que ça, des trucs toxiques, mais on pourra passer la journée là-dessus. Demandez à votre éleveur ou à la personne que vous avez adoptée, votre vétérinaire, là, une liste. Vous allez voir.
Pour votre espèce.
Ouais, puis c'est, les perroquets, c'est de façon, tu sais, l'oiseau, perroquet, c'est pas mal.
Ah oui, problème. Dans ce cas-ci, cool.
Ouais, on met tout le monde ensemble, on prend pas de risque. Comme je vous dis, à la médecine, l'avancée de la bière n'est pas de temps avancée, fait qu'on prend pas de risque. On dit, il y a une espèce qui est morte à cause de ça, on le sait. Let's go tout le monde, on arrête. Ça suffit. c'est fini. Fait que, ouais.
Nice. Hey, très cool. Ben, j'espère qu'avec ces conseils-là, les gens vont pouvoir se faire une meilleure tête. Puis une bonne réflexion, une bonne planification et de préparation avant d'accueillir leur oiseau, puis que leur premier oiseau, premier contact se passe le mieux possible. Fait que merci beaucoup, encore une fois.
Bien, oui. C'est vraiment fun, c'est plaisant.
Puis on se reprend un autre date pour les problèmes, le top, je ne sais pas combien, des perroquets, ouais. Des comportements dérangeants ou des problèmes chez les perroquets, puis des solutions en rafale là, si possible, soit pour régler, mais surtout pour prévenir.
Oui, effectivement.
Fait que on se reparle.
À très bientôt. Merci encore, c'est le fun.
Yeah. OK, bye.
Bye. Bye.